Bonjour à tous et bienvenue sur le 30e Weekly News. Avec moi cette semaine pour parler de l'actu, Mr. René Bunny.
Bonsoir à tous et toutes.
Et Sam.
Bonsoir les gens. Et les gens.
Cette semaine, nous allons parler de Green Lantern, puisqu'on a appris que ce n'était pas que Jeff Jones qui quittait la franchise, mais tout le monde. Nous parlerons aussi d'autres news d'essai, notamment Orson Scott Card qui continue de faire polémique, les spoilers sur Damian, et les sollicitations, qu'elles soient Marvel ou DC. Le gros sujet de cette semaine sera consacré au cinéma. Est-ce une année noire pour le cinéma? Et par noir, on n'entend pas forcément de mauvaise qualité, mais plutôt du côté sombre. Enfin, la partie Screen News, toujours le cinéma, avec des annonces concernant les castings de Drax, Lobo, des nouveautés pour Amazing Spider-Man ou encore dans le jeu vidéo avec une saison 2 pour Walking Dead. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. On commence comme d'habitude avec le quoi de neuf. Alors on va commencer par Sam. Quoi de neuf cette semaine,
Moi, mon quoi de neuf, c'est que je me suis maté deux films ce week-end. Le Dread. Le dernier film, qui est une tuerie monumentale. Je suis pas du tout d'accord avec Nono, dont l'article est sorti dimanche, et franchement, je le recommande chaudement. C'est bourrin, c'est vrai, mais c'est du bon bourrin.
Le rapprochement avec le film The Raid a été fait à de nombreuses reprises dans les critiques que j'ai pu lire, tu confirmes?
J'ai pas vu Raid, donc...
Ok, mais c'est pas grave, donc c'est un truc qui tombe à l'eau.
Oui, légèrement. Sinon, je me suis aussi maté Ted, La comédie de Seth MacFarlane.
Alors
drôle pendant une heure et très chiant par la suite.
Ok, ça m'encourage vachement à aller le voir.
Bah, la première heure est vraiment marrante. C'est-à-dire que si tu connais l'esprit Family Guy, il est vraiment là-dedans. Puis je sais pas, au bout d'une heure, ça devient chiant.
Ouais, mais rappelons que Sam n'a pas aimé FF, donc peut-être que tu aimeras
oui.
Ted, du coup.
Dis-le haut et fort, tu n'as pas aimé FF 3.
Non, je trouve ça complètement con. C'est, voilà.
Bouh, tu... J'ai honte.
J'ai bah, Liokai. Si tu n'aimes pas Okai non plus, là, franchement, on pourra te virer.
Mais il aime pas, c'est Matt Fraction, il aimera pas. De ton côté, Benny, quoi de neuf?
Je vous en ai parlé avant l'émission, je vais pas revenir dessus. Voilà.
C'est légèrement
censuré, c'est privé, voilà, c'est privé, c'est d'ordre privé.
Pour ma part, un week-end un peu bizarre. Que j'ai pas fait grand chose. Si j'ai commencé à me remettre à lire des mangas un petit peu ces derniers temps, puisqu'on en parle de temps en temps entre nous, un petit peu après les émissions ou avant, ce genre de choses. J'ai commencé à lire des petits trucs, donc bon, comme j'en suis que dans des premiers tomes de série, je vais pas en parler ici, mais voilà, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard dans d'autres émissions de mes lectures et de cet univers que je redécouvre après avoir arrêté depuis maintenant plus de 15 ans.
C'est bien retour. Bon retour, amour.
Ouais, effectivement. Allez, on commence tout de suite. Oui. Ah, vas-y, Benny. Vas-y.
Si, je peux dire un truc. Si, je me suis acheté du vieux Toys.
Voilà, pourquoi c'était semaine... privé. Je comprends mieux maintenant.
La semaine dernière, je me rappelle maintenant.
Il aime les sextoys usagés.
Non, c'est du Toys de Batman, le dessin animé des années 90. J'ai enfin trouvé la Batmobile que je n'avais jamais eue quand j'étais petit.
Et
voilà, je l'ai. Oui, la Batmobile du dessin animé.
Ah, énorme.
Énorme, effectivement.
Alors, il paraît qu'il y a le cockpit, je sais pas quoi, qui se retire, mais j'ai peur de casser le truc, je sais pas comment faire exactement. Donc, si quelqu'un avait la Batmobile ou sait comment ça fonctionne, qu'il me le dise.
T'as pas regardé s'il y avait pas un manuel sur le net, un mec aurait scanné le manuel de l'époque ou un truc comme ça?
J'ai pas regardé, non, c'est vrai que j'ai pas regardé encore. Mais bon, voilà. Enfin,
mais si vous avez la solution, postez en commentaire.
Ouais,
n'hésitez
pas.
C'est ça, ouais. Et puis sinon, oui, je me suis pris trois figurines, le Batman, quoi, puisque moi j'en avais un qui avec une armure qui était pas vraiment le Batman du dessin animé, qui était un truc un peu plus particulier, le Riddler et puis le Pingouin, que j'avais à l'époque, mais que j'ai complètement pété, je pense, donc voilà.
Riddler qui sera un des sujets des prochains arcs de Scott Snyder, d'ailleurs.
Ouais, enfin bref, voilà, retour. Retour en enfance, nostalgie, tout ça. Enfin, c'est surtout pour ça, quoi.
Bah, un peu comme pour moi avec les mangas, en fait, finalement. Je pense que c'est le côté nostalgie qui t'a déclenché cette.
Putain, oui, c'est voilà, c'est l'époque. Je sais pas, c'est le temps. Je ne l'explique pas, mais c'est comme ça.
Allez, on commence les brèves de la semaine avec justement Green Lantern. Comme je le disais en intro, Green Lantern, la semaine dernière, on annonçait que Geoff Johns quittait la franchise au numéro 20, après pas loin d'une centaine d'épisodes de Green Lantern décrits. Et on a appris justement que ce n'était pas seulement Geoff Johns qui partait, mais bien tous les membres, enfin tous les scénaristes et tous les dessinateurs de toutes les franchises Green Lantern. Donc Tomasi va quitter Green Lantern Corps, Tony Bedard va quitter New Guardians.
Oui.
Et Peter Milligan va quitter Red Lanterns.
C'est pas une perte.
Rien pour le moment ne nous indique qui va les remplacer.
Bah si.
Il y a des rumeurs.
Bah si, si, il y a des rumeurs. Il y a... Alors, on peut dire les noms ?
Bah vas-y, je t'en prie. Moi, je les ai alors... pas trouvés justement, les rumeurs. Donc,
d'accord, bah alors, je l'ai dit là comme ça en direct. Il y a Joshua Alfaïkov, le fameux
je crois,
favori de Bruno.
Ouais, si, scénariste d'I Vampire, le scénariste de la prochaine mini-série Alpha qui sort bientôt,
qui est une bonne source de rire pour moi.
on verra, mais en tout cas, Bruno ne tarit pas d'éloges sur lui, donc pourquoi pas sur la franchise Green Lantern. Ouais. On verra ce que ça donne. Robert Venditti, le fameux Robert Venditti dont on entend parler de plus en plus.
Bah, celui qui a été débarqué très rapidement du projet,
Constantine.
Alors qu'il devait écrire Constantine.
Et oui, peut-être pour ça justement. Justin Jordan serait de la partie également. Bon. Et
ouais,
dernier nom,
pas, hein, c'est tous ces nouveaux noms de chez DC actuellement, quoi.
Et bah justement, le quatrième te fait mentir puisque ce n'est pas du tout un nouveau nom, c'est Keith Giffen qui serait sur du Green Lantern.
Ouch. Oui,
pourquoi pas. Non, pourquoi pas.
Mais Keith Giffen, moi je dis pas non. Le problème, c'est que actuellement, il est sur Threshold. Mm-hmm. Va-t-il continuer cette série ou pas? On ne sait pas. La série est pas trop mal, mais survivra-t-elle? C'est ce qu'on disait dans le Comics Weekly la semaine dernière. Et puis, si ma mémoire est bonne, il était avec Paul Levitz, donc ça explique peut-être qu'il soit parti de la Légion après deux numéros alors qu'on nous disait le tandem. Pourquoi pas? Mais je sais pas si Keith Giffen, enfin, ça dépend quelle série il reprend, quoi. Je le verrais bien sur un truc un peu à part du type Red Lanterns plutôt qu'une série principale.
Ouais, en même temps, je pense que Red Lantern, il devrait l'arrêter et lancer une autre série. La poste.
Ouais, une série sur l'Arflease, ça claquerait.
Voilà. Ou Simon Baz. Voilà, tu le mets dans son propre titre et t'arrêtes de nous emmerder avec ça dans Green Lantern.
Ben, ouais, pourquoi pas. Parce qu'une série Blue Lantern, je vois pas comment elle pourrait marcher.
Non, Sinestro Corps, parce que...
Sinestro Corps, ça pourrait être sympa. Centra sur Sinestro.
Ouais, pourquoi pas. Puisque, on a appris quand même que Geoff Johns nous teasait de gros événements pour le numéro 20. Notamment le retour bizarre, et c'est selon ses mots, le retour très étrange de Hal Jordan, le destin final de Sinestro. Et puis, cette histoire avec le First Lantern. Voilà. Donc, il nous promet des monts et merveilles pour le numéro 20. On verra s'il tient sa promesse.
En tout cas, ça comment il va conclure son run.
Moi, j'espérais franchement une reprise du titre par Tomasi, puisque, voilà, il a autant œuvré, peut-être pas autant que Geoff Johns, mais en tout cas, il était vraiment, vraiment très, très bon sur la franchise Green Lantern. Je suis un peu déçu de le voir partir, quoi.
Bah, en même temps, ça fait 6 ans qu'il est dessus. Hein.
Et alors? C'est pas grave. Quand c'est bon, c'est pas grave. Enfin bon. Green Lantern, on en saura plus, donc dès que les vrais noms seront teasés, de toute façon, on le saura au plus tard d'ici quelques semaines pour les sollicitations du mois de juin.
Ouais.
De toute façon, là, c'est des noms annoncés par Rick Johnson, donc il y a des chances que ce soit effectivement ces quatre-là qui arrivent sur la franchise.
En même temps, ça change tellement vite que je décède.
C'est vrai. Mais par contre, sur quel titre serait-il attribué, ça, on ne sait pas. Puisque là, en fait, c'est un ordre totalement aléatoire, quoi.
Ouais, donc en fait, tous ceux qui ont été débarqués un peu récemment se retrouvent sur les titres Green Lantern.
Ouais.
D'ailleurs, les titres Green Lantern vont peut-être être totalement remaniés aussi.
Peut-être, oui. Parce qu'il faut se souvenir qu'en général, les franchises que quitte Johns, elles ne survivent pas très longtemps ensuite. Hein, ou alors, très bon niveau. Parce qu'en général, il fait des runs qui marquent. Donc,
Ça a été le cas pour l'ancien univers. Est-ce que ce sera le cas pour ce nouveau univers New 52?
Je dirais oui, parce que Green Lantern, c'est quand même... il l'a sorti de nulle part, quoi, le titre. C'était vraiment un titre de second ordre, et il en a fait un des porteurs d'étendard de l'univers DC. Donc...
Certes, mais depuis l'arrivée de ce grand relaunch, c'est New 52, on a bien vu qu'il y a beaucoup plus de lecteurs, il y a plus de ventes, etc. qu'auparavant. Donc, est-ce que les gens seront peut-être plus enclins à donner la chance?
Parce qu'on
sait qu'il y a beaucoup d'anciens lecteurs qui ont arrêté, qui ont profité de cet arrêt pour arrêter complètement. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont restés chez DC. Est-ce que ces nouveaux lecteurs donneront plus la chance à des titres qui ne sont pas tenus par des gens comme Geoff Johns, qui connaissaient peut-être un peu moins?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens qui suivaient Geoff Johns sur des franchises, alors on a vu ça sur sur Flash, sur JSA, faisait un travail qui était immédiatement comparé à ce que faisait Geoff Johns, parce qu'il était resté très longtemps, il avait marqué le titre, il y avait vraiment une empreinte Geoff Johns sur ces séries.
Bah c'est comme ça pour tous les créateurs qui sont restés longtemps. Hein,
voilà, mais en général, les successeurs faisaient un travail qui était moins bon, et ça se ressentait immédiatement, et du coup, les lecteurs partaient.
En même temps, par rapport aux 20 numéros de Green Lantern, il nous en reste encore quelques-uns à voir, mais c'était pas la panacée comme on a eu au tout départ du volume précédent. Mmh. Hein. Donc finalement, quelqu'un qui reprendra après ça souffrira peut-être moins de la comparaison que s'il avait repris juste après Sinestro Corps War, par exemple. Mmh. Après, voilà. Peut-être que justement, ces quatre derniers numéros qui nous restent à voir de Green Lantern seront peut-être magistraux et remonteront le niveau à un truc inégalé jusqu'à présent, mais j'y crois pas, quoi. J'y crois plus, en fait. Malheureusement. Enfin bon. Une dernière pensée là-dessus, Benny?
Non. Voilà, enchaînons.
On va passer à Superman. On avait parlé la semaine dernière de cette polémique suite à l'annonce qu'Orson Scott Card allait scénariser des petits épisodes pour Adventure of Superman, cette série Digital First. Eh bien, DC s'est exprimé de façon officielle suite à cette polémique et à cette pétition qui a démarré sur le net. Ils ont dit clairement que chacun avait droit à sa liberté d'expression. Ils ne partageaient pas forcément les mêmes idées. Ça n'empêchait pas qu'ils n'allaient pas retirer justement Orson Scott Card du projet. Ce qu'il dit, c'est sa liberté de parole. Il a tout à fait le droit. Et ce qu'il écrit, c'est totalement autre chose.
Grosso modo, ce qu'on a dit la semaine dernière. Voilà, c'est-à-dire, il a des opinions à la con, mais il a le droit de les avoir.
En prenant leurs mots exactement, ils disent que voilà, ce sont ses visions personnelles à lui, ce ne sont pas les visions de la compagnie. Et donc, ce sont deux choses totalement à part.
Du moment qu'il les met pas dans les comics.
Voilà, ouais.
Voilà, je pense que sinon, de toute façon, ça ne passerait pas l'éditorial DC.
Hein. Non, mais je dirais, du moins tant qu'il les met pas dans la bouche de Superman.
En même temps, tant qu'il les met pas dans la bouche de Superman, d'accord, mais s'il le met dans un des membres du cast autour, un Lois, un Jimmy, un truc comme
non,
ça.
Non, mais s'il mettait un Superman individu que rencontre Superman et que tout d'un coup, il est contre quelqu'un de super réactionnaire, ça peut amener un débat intéressant. De montrer justement que Superman est plus universaliste et moins conservateur que ça.
Oui, alors DC est super d'accord avec son point de vue et ils vont même faire 14 variantes de cover différentes avec des représentations de ce qu'ils pensent.
Pour l'Amérique Red.
Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie, de toute façon, des auteurs un petit peu limites. Il paraît que John Byrne aussi a pas mal de dossiers. Si on avait censuré John Byrne pour ses opinions politiques et autres, on n'aurait pas eu des runs comme Fantastic Four.
Je rappelle aussi que Chuck Dixon, qui a œuvré longtemps sur Batman, est un auteur conservateur. Frank Miller est légèrement à droite, mais très légèrement. Hein. Voilà, je rappelle que quand on a eu Occupy Wall Street, il a traité les gens de voleurs et de violeurs. La référence aux violeurs, là, j'ai pas compris, mais c'est pas grave.
Amalgame toujours très facile.
Voilà, oui, donc, comme je disais, très légèrement à droite.
Non, mais enfin voilà, il faut de tout hein, pour faire un monde comme celui de DC ou Marvel, et puis... Du moment qu'on fait la part des choses,
Puis comme j'ai dit, si on doit virer tous les cons, il restera plus grand monde. Hein.
Rappelez-vous aussi les problèmes plus récents avec Ethan Van Siver, qui apparemment est quelqu'un d'assez à droite, et les problèmes d'entente avec Gail Simon, qui est vite parti de Fury of Firestorm parce qu'elle ne pouvait plus bosser avec lui.
Parce qu'elle est notoirement très à gauche. Hein.
Voilà, il y avait aussi des divergences politiques dans le staff éditorial DC. C'est quelque chose qui a fait un petit peu les news à l'époque, mais ça n'a pas été... si majeur que ça, la preuve, à part des gens comme nous qui s'intéressons vraiment aux news et qui font une émission dessus, je pense que peu de gens s'en rappellent.
Ça, c'est dommage, par contre, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu con, parce que finalement, ça n'a pas à rentrer en ligne de compte. S'ils étaient vraiment professionnels, ils feraient fi de ça, et puis voilà, ils bosseraient sur leur truc.
Je pense que c'est des trucs qui fuitent sur Twitter, comme d'habitude, parce que t'as quelqu'un qui parle sur Twitter, et puis que, après, c'est repris dans les sites de news, comme d'hab, quoi. Mais bon, en même temps, ça reste de la news. Finalement, divergence créative, point, ils se sont séparés.
Enfin, bon, on va mettre tout le monde d'accord, hein. Rob Liefeld avait quand même bien raison.
En revanche...
C'est quand même lui le plus intelligent. Hein.
En revanche, ça n'empêche pas certains, malgré la réponse de DC, la réponse officielle de dire, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, ça le regarde que lui, ça n'empêche pas certains comic stores de ne pas, enfin, de refuser de vendre le premier numéro de cette anthologie Adventures of Superman, qui reprendra l'histoire courte de Orson Scott Card.
Manifestement, ils ont raté le mémo où c'était dit que c'était une vente digitale.
Non, mais c'est qu'après le digital, ce sera collectionné.
Oui,
ce sera
ça, j'avais compris, mais la plupart des gens vont se le payer en digital d'abord.
Et ce sera, oui, bah oui, voilà, ce sera d'abord en digital, mais ensuite, elle fera partie du premier numéro de cette anthologie qui sortira en papier, comme on a les Legends of the Dark Knight aujourd'hui, quoi.
J'ai envie de dire, c'est con pour eux, hein. Ils ont déjà du mal à vendre ce qu'ils ont à vendre. Bon, bah, si en plus ils décident de scier une branche sur laquelle ils s'assoient, tant mieux pour eux, enfin, tant pis pour eux.
Bah, hein, surtout que c'est un numéro 1. Et qu'un numéro 1, on le sait très bien, ça attire le client, quoi.
Non, mais c'est surtout que c'est un numéro qui fait polémique, et donc peut-être qu'il va justement pousser les lecteurs à aller voir ce qu'il y a dedans.
Ceux qui n'auraient pas fait du digital, effectivement. Ouais.
Exactement. Donc non, moi je trouve ça stupide de leur part, mais tant pis pour eux.
Ouais. Bon, alors, après tout, chacun a le droit à son opinion. Hein. À partir du moment où voilà, ça ne se transmet pas, comme on le disait tout à l'heure, dans l'écrit lui-même, pourquoi pas.
Chacun a le droit, mais je trouve ça un peu stupide quand t'es client de devoir aller dans un comic shop parce que ton vendeur décide de ne pas te vendre un truc qui normalement devrait te vendre.
Oui, bah oui, moi je suis entièrement d'accord. Scott Card a des visions anti-gay, anti-mariage gay, etc. Ben j'ai envie de dire, tant pis pour lui, il a le droit d'être con, il a le droit de pas être ouvert d'esprit. Mais après tout, ça ne se retransmet pas forcément dans ses écrits, donc c'est bête de passer à côté d'une vente. Je sais pas. Enfin, oui, bon, ils ont le droit. Ça permet aussi peut-être de faire un petit coup de pub pour le comic shop. Est-ce vraiment de la bonne pub? Je suis pas sûr.
Nous sommes intolérants. Venez acheter ici.
Mais ouais, bah, finalement,
c'est ce qui est marrant, c'est que le message, c'est au fait, on va censurer finalement quelque chose. Une œuvre littéraire parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit l'auteur. Bon, bah, c'est toujours un truc qui m'a agacé, ça.
Je veux dire, qui censure à ce moment-là parce que les propos sont les propos à l'intérieur même du comic sont controversés. Là encore, voilà. Mais parce que le mec a dit et parce qu'il est dans des associations anti-gay, etc. Ouais, enfin, je trouve ça bête, quoi. Je trouve ça bête. Ça ne se retransmet pas. Enfin, on lit l'histoire avant, on juge après.
Non, mais là, on va pas lancer le sujet politique parce que on entre dans les contradictions de la gauche par rapport à la liberté d'expression. Donc, c'est pas la peine. On en a pour des jours.
Ben, justement, passons au prochain sujet. Alors, sujet un petit peu spoil. Ça reste encore, une fois de plus, des suppositions, des rumeurs. Donc, rien de sûr. Mais, Damian pourrait bien disparaître.
Juste au moment où tout le monde l'aime. Merci, Leslie.
Alors, je vous dis, enfin, je pense que vous avez peut-être le même avis, mais moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la première histoire de Batman Inc., où il était question, justement, de la mort de Damian, on se rendait compte qu'il y avait tout un plan fomenté par Bruce Wayne derrière ça. Ouais. Donc, bon, bah, à un moment donné, faudra bien qu'on y revienne et qu'on boucle la boucle. Donc, je pense que ça y est, c'est tout. Mais je crois pas du tout qu'il va disparaître.
Voir, parce que c'est du Morrison, hein, donc il est capable de tout.
Pourquoi en arrivons-nous à ces suppositions-là? C'est tout simplement parce que apparemment un gros, gros, gros événement va se produire dans Batman Incorporated numéro 8. Numéro 8.
Oui,
ou 9,
il doit sortir ce mois-ci. Ouais, en mars, début mars.
Et apparemment, les ramifications, d'après ce qu'on peut lire dans les sollicitations, se font dans tous les titres Batman. On a aussi sollicité pour le mois de mai des tandems de Batman dans Batman et Robin, mais cette fois-ci non pas avec Damian, et on ne parle pas de Damian, on parle simplement de Jason Todd qui serait en tandem avec Batman. Il y a plusieurs images où on a notamment un RIP, mais cette fois-ci avec Damian en couverture et le R de RIP avec le symbole de Robin. Il y a voilà plusieurs... plusieurs petites pistes que si on rejoint, ça peut...
Bah oui, mais justement, je pense que c'est pour nous faire croire que si, c'est définitif, et si, il est mort, mais au fait, pas du tout, quoi. C'est un gros, gros coup monté, aussi bien dans l'histoire qu'envers les lecteurs. Je pense que c'est ça. Franchement, enfin, moi, au contraire, hein, je croise même les doigts pour que ce soit ça, hein. Qui dégage, Damian, quoi, qui se fasse découper à la tronçonneuse, et qu'on écrive avec ses tripes, Damian Rick,
on arrêterait peut-être le coup de la baramine ensuite, s'il y avait un coup de la tronçonneuse. Pourquoi pas. Là, en fait, aussi, ce qui fait penser ça, c'est que Grant Morrison a dit que cette histoire était le point culminant de ce qu'il voulait faire depuis le départ sur Batman, depuis qu'il a pris, et que le début de l'histoire, quand il arrivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Damian, et c'était son personnage central dans l'histoire, depuis le départ.
Oui, bah s'il l'a amené pour le tuer au final. Non, moi j'y crois pas du tout, malheureusement. Je pense que le mioche va encore rester là, mais
Bah j'espère.
Ouais, donc toi, tu préférais qu'il ne meure pas, Sam.
Oui, parce que c'est un personnage génial. Et on ne fait qu'effleurer son potentiel.
Parce qu'on parle aussi de ramifications vis-à-vis de Batman. Snyder, dans une interview de cette semaine, a essayé d'éviter d'en parler, mais dit que ça, qu'il y aurait des conséquences pour Batman suite à cette histoire. J'ai l'impression que le gros coup qu'on nous présentait avec Death of the Family, finalement, aura lieu dans The Batman Incorporated. Je suis mauvaise langue, je sais, mais bon. Voilà, il sort le 27 février, ce fameux numéro 8. Bon, jusqu'à présent, la cover qu'on avait de teaser n'était qu'une cover variante. La véritable cover, on a vu l'image depuis pas longtemps, c'est cette fameuse cover RIP. RIP, donc. On verra ce que ça va donner le 27. Je pense que Sam nous fera une review lors du Comics Weekly de cette semaine-là.
Ouais, il y a des chances.
J'ai même pas lu le 7, d'ailleurs, je me dis.
Eh ben, t'as 2 semaines pour rattraper.
Ouais.
Vite, vite, vite. Vas-y, tout de suite.
Ouais, c'est cela, oui.
Allez, on va continuer avec justement les sollicitations du mois de mai, ce qu'elles nous apprennent. Et on commence par des sorties d'Omnibus qui ont été teasées, donc sollicitées au mois de mai, qui sortent en juin et en septembre, puisque les Omnibus sont sollicités longtemps à l'avance, puisque bah ça vaut cher. Et pour les comic shops, il faut aussi pouvoir sortir l'argent.
Il faut stocker, surtout.
Il faut avoir un certain nombre de commandes, imprimées en fonction du nombre de commandes, etc. Enfin, tout un système.
En général, c'est 1000 pages, hein, les omnibus. Donc,
Et 2 omnibus sont à venir du côté de chez DC, puisqu'on commence par les sollicitations DC. Animal Man, tout le run de Grant Morrison sur Animal Man, c'est-à-dire les 26 épisodes, vont ressortir. C'était pré-Vertigo à l'époque. Permettra de pouvoir les avoir pour ceux qui veulent découvrir ce qu'avait fait Grant Morrison sur le personnage d'Animal Man, quelque chose de très intéressant d'ailleurs, avec des concepts qu'il a réutilisés par la suite, comme le fameux cimetière pour super-héros, enfin cette espèce de dimension où tombent les super-héros oubliés. Il y avait aussi Cassage du quatrième mur, Animal Man qui rencontrait son créateur. Il y avait énormément de choses dans ces 26 premiers épisodes. Et DC annonce aussi un énorme omnibus de Promethea.
C'est vrai que je n'ai toujours pas terminé. Je suis toujours bloqué à l'épisode 12 depuis 10 ans.
Je m'attendais à plus de réactions, donc Alan Moore, J.H. Williams 3...
Non, aussi bien l'un que l'autre, je t'avoue que voilà, ça fait partie de ces trucs géniaux, je dis entre guillemets, hein, que je n'ai pas lu pour le moment.
Moi, je trouve ça génial justement de les proposer en omnibus pour que les gens puissent le découvrir, parce que tout le monde n'était pas forcément là à l'époque. Les collecter en TPB, c'est pas toujours évident.
Ouais, mais un truc comme Promethea, je pense que en omnibus, ça doit être assez dur à manipuler, et c'est dommage parce que ton omnibus, tu vas, enfin. Sur des doubles pages, etc., qui sont vraiment à apprécier.
Et surtout,
c'est difficile.
Ce 32e épisode, qui est qu'une série de doubles pages où toutes les doubles pages mises ensemble font des images beaucoup plus grandes.
Bah oui.
Je sais pas comment ils vont faire pour ce 32e épisode. Donc il y a les 32 épisodes de la série de Promethea dedans. Moi, je sais pas. Je trouve que c'est quand même une bonne idée de les proposer en omnibus, quoi. Peut-être qu'il y aura-t-il un poster à l'intérieur.
Bah, ça serait bien que ça sorte en VF, surtout. Comme je l'ai dit, je suis bloqué à l'épisode 12 depuis longtemps. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer l'épisode 12, ça serait bien.
Le truc, c'est que à partir du moment où ça sort en VO, il y a des possibilités que ça sorte en VF. Mmh. Puisque en VF, ils ne feront pas de travail d'aller collecter des singles pour faire un omnibus. Ils feront des TPB, des omnibus, que s'il y a le matériel déjà disponible dans ce format-là, en VO. Donc, ça peut laisser entrevoir une chance de les avoir peut-être un jour en VF.
Mmh.
Ce qui reste quand même une bonne nouvelle pour nous aussi en France. On continue avec The Wake. The Wake qui arrive en mai.
Oui, une nouvelle série de Scott Snyder, enfin mini-série, je crois que c'est en 12 épisodes.
Ouais. 10.
10 épisodes. 10 épisodes.
10 épisodes, Scott Snyder et surtout Sean Murphy.
Sean Murphy, ça va donner là.
Donc voilà, on a enfin la date, on ne savait pas quand ça sortait. La date est annoncée, c'est le 1er mai que ça sort. Non. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Donc du coup, Sean Murphy va enchaîner quasiment coup sur coup. Punk Rock Jésus, c'est The Wake. C'est plutôt impressionnant.
C'est un chaud lapin, Sean Murphy, s'il enchaîne cul sur cul. Mais
tant que c'est pas bit sur bit. Hein,
Oh non, mais non.
Non, merde. On a dit que c'était sans montage. En plus,
hein. On avait dit plus mot là, c'est terminé.
Ouais. T'as dit plus.
Il va falloir mettre de l'argent maintenant dans la tirelire, hein, chaque fois qu'on dit le mot. Mais En tout cas, bah moi je suis contrairement à Sam, j'attends quand même de voir avant de juger par rapport au nom d'une équipe créative.
Bah visuellement ce sera beau déjà, scénaristiquement faut voir.
Oui, c'est le plus intéressant, c'est surtout d'avoir enfin cette date, puisque on nous le disait depuis le mois d'octobre dernier, hein, depuis la Comic-Con de New York en octobre dernier, on n'avait toujours pas de date. Ça y est, maintenant, on sait quand ça sort. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais.
On continue avec la partie Batman dans les sollicitations, et notamment, une chose intéressante, c'est dans Batgirl, on va nous réintroduire une version féminine d'un ennemi, le ventriloquiste.
Mais Paul Dini l'avait déjà fait, ça. Hein.
Oui, mais on espérait pouvoir peut-être, avec ce nouvel univers, revenir à l'ancien ventriloquiste, ça aurait peut-être été pas mal.
Mm-hmm. Je sais pas, moi j'avais bien aimé l'histoire d'Azarello, il supprimait le personnage, donc...
Non mais dans l'ancien univers, je suis d'accord, on avait l'ancien puis qui était mort et qui était récupéré par quelqu'un d'autre, mais mm-hmm. je trouve ça dommage de réintroduire directement la version féminine, quoi. Le personnage masculin avait tellement eu gagné d'aura, notamment à cause du dessin animé.
Voilà, et puis franchement, la version féminine... Ouais.
L'arc était pas trop mal, hein, quand même.
Non, c'était pas trop mal, mais le personnage avait pas le charisme de l'original, quoi.
Moi, je me rappelle surtout des traductions Panini. Alors, je rappelle qu'il s'appelait Arnold Wesker, et Panini, à plusieurs reprises, avait le traduit par Albert Wesker, qui est donc un personnage de Resident Evil. Mais... peut-être... Merci, Panini.
Mais c'était peut-être volontaire, c'était peut-être un petit easter egg volontaire.
Ah non, je pense pas. Non, mais je pense que c'était vraiment une erreur de Panini, du traducteur, en fait, qui devait connaître le jeu et qui avait vraiment ce...
Il jouait au jeu, en fait, en même temps, et puis...
On continue avec une nouvelle équipe créative pour Suicide Squad, chose qui a été aussi annoncée dans les sollicitations. On savait déjà que Timothy Green 2 arrivait au dessin, et on sait maintenant que c'est Alex Cott qui va prendre le scénario. Alors,
donc
Alex
Bruno, hein,
Cott, je ne connais pas du tout.
Du tout, non plus.
Et on nous promet vraiment un gros changement, carrément d'équipe aussi. L'équipe va complètement bouger.
Donc le suicide de Bruno est pour bientôt.
En même temps, voilà, Suicide Squad, à l'époque, faisait pas de sentiments et il y avait des membres qui mouraient, quoi. C'était Suicide Squad, c'était bien. Donc pourquoi pas tous les membres de l'équipe qui meurent et on repart avec des nouveaux. Ça serait peut-être plus proche du concept original. dernière news qu'on apprend dans les sollicitations, avant-dernière, c'est les anciens créateurs, on en parlait des nouveaux justement, ceux qui vont arriver sur Green Lantern, eh bien les anciens ont tendance à disparaître, puisque l'arrêt de Fury of the Firestorm et de Savage Hawkman font que Dan Jurgens et Tom DeFalco n'ont plus rien à écrire.
Pour le moment.
En tout cas...
C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que Jurgens, c'est un peu un pilier de DC depuis quasiment 20 ans. Hein.
Depuis les années 80.
Ça tourne tellement chez DC qu'au bout de 3 mois, il y aura déjà des changements sur les équipes créatives de Green Lantern, et du coup, Dan Jurgens et Tom DeFalco vont pouvoir reprendre l'un des titres, etc. Enfin, de toute façon, il y aura toujours de la place pour eux, à mon avis. Hein.
Oui, c'est un peu géré n'importe comment.
Un autre qui n'a plus rien à écrire non plus, c'est Fabian Nicieza. Fabian Nicieza qui écrivait actuellement Batwing. Batwing est repris par Justin Gray et Jimmy Palmiotti. Et il n'a plus rien. Et ce qui ne fait peur pour Fabian Nicieza quand même, c'est la réponse de Bob Arras qui dit que voilà, il veut appuyer sur le fait que Fabian Nicieza a été là dès le départ pendant cette période de transition et que c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui nous a vachement aidé.
Voilà. Donc merci la porte, c'est par là.
Grosso modo, si on lit entre les lignes, c'est c'était cool, au revoir.
Oui.
Je sais pas.
Le problème, bien sûr qu'il a été chez Marvel, Schubert, il en a fait plein d'ailleurs.
Ah, il était sur les X-Men notamment pendant une grande période.
Ouais. Les années 90, c'est avec Scott Lobdell, très bon run en plus.
Oui, c'est enfin. Très bon, mais
de toute façon, ils sont plus trop à employer des anciens chez Marvel en ce moment.
Et
d'ailleurs, on les comprend un peu. Hein. Il y a toujours Lobdell qui est là. Hein.
Oui, mais pour combien de temps encore? Puisque là, ils font vraiment partir tous les anciens, quoi. Le plus énervant, c'est quand même pour Dan Jurgens, hein, comme tu le disais, Sam, il est là depuis les années 80.
Mmh. Ouais, mais enfin, bon, après, faut convaincre aussi. Et je suis pas certain que les anciens aient convaincu avec ce relaunch. Honnêtement, Scott Lobdell, bon, il y a du passable, on va dire, du pas trop mal, mais il y a surtout beaucoup de mauvais, hein, quand même.
Ouais.
Je sais pas, je lis plus personnellement Superboy, au mois le mois les séries qui
m'ont
non
plus, les séries de Lobdell, j'ai arrêté, hein, parce que...
Superman,
t'es mauvais, Superman, il y a eu 10 bonnes pages et puis c'est tombé dans la merde.
Oh non, récemment, il y a eu quand même de bons trucs.
Le crossover de l'honneur, ça a l'air de passionner quand même, que ce soit toi ou Bruno, hein.
Passionné, c'est un bien grand mot.
J'ai arrêté au bout de 10
pages. J'en ai lu même pas la moitié, je pense, du coup. Mais non, mais par contre, il y a eu de bons épisodes quand même de Lobdell. Il y a eu l'épisode avec Superman qui rencontrait Lex Luthor. Là, c'était vraiment pas mal. Non, il y a eu quelques bons trucs, mais bon, je pense qu'il a perdu de sa superbe quand même.
Mmh. Ouais, après, lui laisse-t-on faire vraiment ce qu'il veut aussi? C'est toujours la même question, puisque on voit
sur Superman
de DC. L'éditorial de DC est quand même assez particulier en ce moment.
Ouais.
Si par particulier, tu veux dire spécial, tu veux dire con, oui.
Je sais pas, je suis pas derrière, c'est difficile d'émettre un jugement. Moi, les décisions, je les trouve stupides. Mais après, comment c'est géré vraiment derrière? Tant qu'on n'y est pas, on peut pas savoir.
On avait dit on arrête avec les blagues sexuelles.
Pourquoi? J'ai pas compris.
T'as dit derrière.
Ah, parce que
j'ai... Bah alors là, si à chaque fois qu'on dit derrière maintenant...
Si je peux dire devant ou derrière ou dessus ou dessous, ça va être chaud.
Allez, bah, c'est ton nouveau défi pour finir la mission. Plus de derrière.
Ça va être chaud. Dernière news DC, justement, par rapport aux sollicitations du mois de mai. Le retour d'acteur d'Hector Hammond, mais dans les pages de Superman.
Alors ça, c'est une grosse connerie.
Ça, j'ai pas très bien compris pourquoi cet ennemi emblématique de Green Lantern, encore plus emblématique depuis qu'il a été dans le film. Mm-hmm. Bon, on ne juge pas sur la qualité du film ou quoi que ce soit, c'est juste que il a été vu par les masses, c'est surtout ça. Donc il est beaucoup plus facilement associé à Green Lantern. Bien là, il revient dans les pages de Superman.
Puis surtout, on l'a plus vu depuis la période, enfin l'arc Brightest Day dans Green Lantern, où il fusionnait avec l'entité c'était la cupidité, c'est ça?
Ouais, je crois.
C'était l'espèce de serpent là, oui. Mais on l'a plus revu depuis. C'est bizarre que Jeff Jones. Je sais pas pourquoi il a laissé tomber le personnage.
Parce qu'il savait pas quoi en faire.
Non, mais le truc c'est qu'il l'a introduit, il l'a réintroduit depuis Rebirth en plus. Je crois que c'était dans Rebirth qu'on le revoyait
le
personnage.
Puis, c'était quand même très malsain. Le mec était limite amoureux de lui. Enfin, c'était il voulait sa vie, il voulait être lui finalement. Enfin, il voulait être Hal Jordan. Mmh. C'était vraiment très malsain, quoi. C'est
non mais
enfin,
voilà, Jeff Jones a été pendant des années. Je pensais qu'il avait un plan derrière tout ça. Finalement, non.
C'est... Benny, tu une petite pensée pour ça te dérange pas toi que ce soit réintroduit dans Superman?
Ah, pas du tout. Non, moi au contraire, je suis militant pour qu'on mélange les personnages des différents univers. J'aime bien quand il y a des super-héros qui affrontent des super-vilains qui ne sont pas forcément de leur univers. Bon, faut voir comment c'est fait, mais par contre, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça manquait un peu de suivi, et j'aurais espéré qu'il rejoigne un corps, par exemple.
Non, mais ça me dérange pas qu'il apparaisse en dehors de Green Lantern, c'est pas la question. Mais j'aurais préféré qu'il soit réintroduit par Jeff Jones, puis ensuite qu'il soit réutilisé ailleurs. Voilà, que la version de Jeff Jones soit...
Oui, non, mais Jeff Jones n'a pas terminé ce qu'il avait ébauché avec ce personnage, alors qu'il y a eu quand même une grosse construction. Je me souviens de nombreux numéros avec lui, en plus.
Oui, ben voilà. C'est le problème, c'est que la réintroduction New 52 n'est pas dans la série de laquelle il origine, finalement. Mm-hmm. Bon, c'est un peu bizarre. On apprend d'ailleurs aussi que ce Superman 20 nous montrera Orion. Aussi, dans les pages, on a cette superbe cover où on a Superman qui met une grosse patate à Orion.
Et Orion qui lui met une grosse patate aussi.
Qui lui met une patate aussi, mais elle est un petit peu à plat. Celle de Superman est plus efficace visuellement. Et voilà, Orion sort enfin des pages de Wonder Woman. Il se confronte au Big Blue, quoi. Oui, ça vous laisse complètement froid.
Ouais. Non, bah oui, non.
Bah c'est son titre historique quasiment, puisqu'il était introduit dans l'univers de Superman à la base. Donc,
Bah oui. Non mais c'est bien, au moins voilà, ce n'est plus que le jouet d'Azzarello. Alors ça peut aussi se prouver, ça peut aussi être quelque chose de raté finalement.
Gadget.
Si c'est mal fait, ça peut être raté et faire baisser l'aura du personnage. Mais au moins on le verra plus que dans les pages de Wonder Woman. Donc le Force World est bien de retour, définitivement. On va maintenant passer aux sollicitations Marvel, puisque Marvel s'est fait un peu discret cette semaine, donc on a été obligé d'aller chercher dans les sollicitations pour voir ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Et on apprend que en mai, les Dark Avengers s'arrêtent. Dark Avengers qui avait remplacé les Thunderbolts en prenant la suite de la numérotation à partir du numéro 175. Thunderbolts avait ensuite été relaunché. Et Benny, toi, tu étais le seul de l'équipe à lire cette nouvelle mouture de Thunderbolts actuellement.
Mm-hmm. Ouais, je la lis d'ailleurs toujours.
Oui, bah oui, non, c'est pour ça que je le précise. Et justement, ça s'arrête au 190.
Par contre, j'ai jamais lu depuis que c'est redevenu Dark Avengers.
Ce qui devrait démarrer dans les pages de l'AVF le mois prochain normalement, puisqu'on a les derniers épisodes ce mois-ci de Thunderbolt justement, le 174. Donc Dark Avengers devrait démarrer au numéro 175 et donc au mois de mars. Alors, c'est la fin de Jeff Parker sur le titre. Jeff Parker qui était là depuis le numéro 138, quand même. Et la série s'arrête au 190, donc il restait vraiment un sacré paquet de temps, finalement.
Bah, en même temps, comme il y avait à un moment des sorties quasiment bimensuelles...
Oui, c'est vrai.
Il y a eu plus de numéros que de temps, je pense.
On va continuer avec Pacific Rim, vous savez, ce prochain film qui arrive, qui risque d'être une énorme bombe,
mm-hmm.
N'est-ce pas, Sam?
Dans le bon sens du terme, attention.
Qui meurt d'envie de le voir depuis, ouais. Depuis qu'il a vu la bande-annonce au mois de décembre.
Robot contre monstre avec filmé par Guillermo del Toro. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans ce film, franchement?
On sait pas. Hein. La bande-annonce a l'air très alléchante, mais si ça se trouve, une fois qu'on verra le truc, on dira putain, c'est une vraie merde.
Voilà. Ouais. Moi, c'est pas le nom des gens à chaque fois sur lesquels je m'arrête. C'est vraiment. Voilà. Faut vraiment que je voie le film pour juger. Donc,
ça parlera peut-être à ton côté féminin, mais c'est Hugh Jackman qui joue dedans quand même.
Dans Pacific Rim, non.
Non, c'est pas Hugh Jackman, c'est qui alors?
Non.
Ah non, pardon, c'était le mec qui joue dans Sons of Anarchy. J'ai oublié son nom. Bah ça va pas me revenir.
Et pourquoi tu disais ça à qui, le côté féminin?
Non, à toi, pour te convaincre, je ne sais pas, ça peut peut-être parler à ta partie féminine. Un bel homme.
Je sais pas, moi je suis Charlie Hudson, attiré voilà. Par Charlie Hugh Jackman.
Non, Charlie Hudson, non mais c'est que Hugh Jackman c'est le côté viril, poilu, qui peut attirer les femmes, et Charlie Hudson c'est le côté belle gueule, quoi, miné, je sais pas.
Oui,
déjà, non, mais
je sais pas.
Il y a des robots qui fracassent des monstres.
Voilà.
Franchement, c'est... Il n'y a pas à réfléchir.
C'est n'importe quoi. Enfin bon, ouais, Pacific Rim, pourquoi on en parle? C'est parce que c'est Marvel qui a récupéré les droits pour adapter ça en comics. Et ce sera donc une petite introduction qui s'appellera Pacific Rim Tales from Year Zero. C'est un hardcover et c'est écrit par le scénariste du film Travis Beacham avec des dessins de Yvel Guichet, Persiles Junior, Chris Batista, Sean Chen. Et une cover par Alex Ross. C'est un hardcover.
Il y avait des beaux noms quand même, je trouve.
Bon voilà, Marvel a récupéré les droits. C'est...
Pour ne rien en faire.
Bah, déjà, ça change des choses, puisque d'habitude, les droits, c'est IDW, c'est Dynamite, c'est souvent ça. Là, c'est Marvel. Quoi. Bon, on verra si ça s'avère être probant ou pas. On continue avec les X-Men, et après la Dark Angel saga... dans la X-Force, ou bien sûr la Dark Phoenix saga emblématique des années 70, enfin 80.
80,
pardon.
Steve, pénalité.
C'est tellement début 80 que ça pourrait être fin 70. Hein. on nous tease à partir de Wolverine et X-Men numéro 30, la Hellfire saga.
Ça va donner, parce que c'est vraiment une histoire que Jason Aaron met en place depuis, quasiment depuis Schism en fait. C'est lui qui a réintroduit la nouvelle version du Hellfire Club.
Ah oui, putain, les Razmoket. Non, les Razmoket saga, alors.
on sait qu'il y a des... Il y a une taupe hein, du Hellfire saga, du Hellfire Club parmi les X-Men.
Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de taupe chez les X-Men.
Ouais, trois numéros.
Tiens, bizarrement, c'était dans Uncanny X-Men 1, cette semaine. Enfin, la semaine dernière.
Là, j'ai l'impression qu'il y a plus de taupes que de marmots chez les X-Men.
on va y venir.
Faut
aussi.
Faut appeler
parce
l'homme
que... taupe. Il va y avoir pas forcément une taupe, mais quelqu'un qui va changer de camp. Ça a été aussi annoncé. Ce sera pour All New X-Men 11. Quelqu'un qui va changer de camp, un des 5 X-Men originaux et qui va aller dans l'équipe de Cyclope dans Uncanny X-Men.
Wolverine.
Ah non, bon, c'est un des 5 X-Men originaux.
Oui, donc Wolverine.
Oui, ça a été annoncé. Oui.
Ah bah tiens, d'accord.
Alors, à un moment, ils vont nous dire que Wolverine faisait partie des 5 originaux. J'en suis sûr.
Donc au moment on a cette petite cover avec le Beast nouvelle version qui tu le disais la dernière fois, j'ai pas réagi sur le moment dans le Comics Weekly. Je sais pas si tu te rappelles de cette série Mutant X.
Oui.
Eh bien ils ont repris le look en fait, ils ont juste enlevé les écailles quoi, mais c'est en fait le look qu'il avait dans Mutant X.
Ah bon.
Ah oui, clairement avec ses oreilles pointues etc. Pour moi je revois le Beast de Mutant X quoi, en bleu pas en vert, c'est tout. Finalement, je trouve qu'ils n'ont pas été très cherchés très très loin, leur design.
Ouais.
On continue avec Uncanny X-Force. On est habitué chez DC à des changements de dessinateur au bout de 3 numéros. Chez Marvel, on nous avait dit qu'avec Marvel Now, justement, les équipes étaient faites pour durer. Eh bien, c'est pas le cas. Uncanny X-Force va changer de dessinateur. Et ça va être Adrian Alfona qui va reprendre le dessin. Mmh. Il va faire quelques intérieurs du numéro 3 et 4 et il va reprendre des intérieurs complets à partir du numéro 5.
D'accord.
Étrange. étrange comme décision.
Je pense que c'est, je pense que c'est surtout pour tenir le rythme.
Bah, apparemment, ce serait le nouveau dessinateur régulier de la série, alors qu'on nous avait promis une équipe qui ne bougerait pas.
À voir si Ron Garnet ne revient pas ensuite pour un arc ultérieur ou ce genre de choses.
C'est dommage, moi j'aime bien Ron Garnet.
Oui, moi aussi.
Ouais, c'était sympa. C'était l'un des attraits principaux de cette nouvelle série qui commençait pas trop mal.
Oui, avec cette magnifique scène d'onanisme.
Faudra voir où ça va aller, quoi. Mais moi, j'ai envie de savoir par rapport à ce bisou, quand même. Voir comment
non,
ça.
Non, mais il y avait quelques, il y avait quelques touches sympathiques, honnêtement. Voilà, c'est l'un des titres qui m'a semblé assez agréable.
On continue avec X-Factor. X-Factor n'a pas de retard. Hein, on avait déjà parlé. Peter David avait des scénarios d'avance.
Et ça, c'est un vrai pro.
Voilà. Oui, c'est clair. Les numéros 255 et 256 sortiront au mois de mai comme prévu avec une saga qui s'appelle Hell on Earth War, pardon.
Tant que c'est pas aussi mauvais que Hell on Earth. Hein.
Et surtout, ça permet de préciser que Peter David est de nouveau rentré chez lui. Il a enfin quitté le centre de
rééducation.
De rééducation, j'allais dire de réhabilitation, je savais que c'était pas ce mot-là.
C'était légèrement insultant. Hein.
Le centre de rééducation, voilà, il est de retour chez lui et les choses vont mieux et on peut toujours continuer à suivre ses progrès chaque jour sur son site internet, ce qui est une bonne chose. On continue avec Retour des vieux de la vieille. Si chez DC ils s'en débarrassent, chez Marvel ils les rappellent, puisque David Michelinie et Bob Layton vont revenir faire du Iron Man.
Ouais, bah alors j'ai l'impression qu'ils font le coup à chaque fois qu'il y a un film qui sort. Et je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins lié à ça, non ? Je dis pas de bêtises.
Alors ce sera dans les Iron Man numéro 258.1 à 258.4 qui seront une mini-série, hebdo. Et ça rapportera, ça parlera justement de Armor Wars, puisque ça se situe pendant Armor Wars.
Pitié, pitié.
Non, Armor Wars 2 en plus, joli.
Armor Wars, oui, donc ce sera
Armor
le 3.
Armor Wars 2, excusez-moi, j'avais
Armor pas Wars 3 du coup.
Alors,
non,
en
non,
plus,
c'est toujours pendant le Armor Wars 2 en fait. C'est pour ça que c'est 258. C'est le 258 de la série originale des années 60.
Bon, Marvel, si oui, vous m'écoutez, faut virer le gars qui a eu cette idée à la con, hein, parce que c'est juste illisible.
Voilà, et on nous apprend aussi qu'en mai, puisque il y aura la sortie d'Iron Man 3, donc forcément Iron Man va avoir le vent en poupe, on nous annonce aussi quelque chose qui s'appellera Iron Man The Coming of the Melter par Christos Gage et Ron Lim, un one shot.
Oui, passionnant. J'aime bien Christos Gage, hein, mais à chaque fois on lui donne tout, enfin franchement on lui donne 36 trucs à faire qui sont pas du tout bandants, quoi, on va dire.
Ah, le pauvre, ouais, c'est le scénariste bouche trou, j'ai l'impression, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est tout pour les sollicitations Marvel, puisque l'autre dont on devait parler, c'était celle concernant le X-Men original qui devait, enfin le X-Man plutôt original qui devait rejoindre l'équipe de Cyclope, le jeune venu du passé. On va terminer les news, les brèves, qui sont plus si brèves que ça finalement, avec un petit mot sur la boîte qu'a créé Steve Niles, une nouvelle compagnie de comics qui s'appelle Black Mask Studio, qui va sortir deux titres, un qui s'appellera 12 Reasons to Die, et le deuxième s'appelle Occupy Comics Anthology, une anthologie, donc un truc en trois parties, une mini-série, qui s'intéressera, en tout cas qui se basera sur le mouvement Occupy, notamment Occupy Wall Street et puis tous les autres hein, qui ont émergé depuis maintenant un an et demi. Et c'est vraiment une tendance, je trouve, en ce moment de chez les comics. On a bien eu Green Team et The Movement qui sont un petit peu tirés de ça. On a le côté Uncanny X-Men avec le côté guérilla, révolution, un petit peu voilà sur Facebook. C'est pour ça qu'on aime les mutants et les tactiques de Cyclope. On a vraiment les comics qui se réveillent vis-à-vis de ça, j'ai l'impression.
Non. Ouais, je sais pas, les trucs à conscience sociale, j'ai l'impression que ça marche pas hein, en termes de comics, donc...
Bah, il se réveille peut-être un peu tard, ça aurait peut-être marché si ça avait été publié il y a un an.
Non, mais de toute façon, j'ai l'impression que les trucs sociaux, ça intéresse pas les Américains. Déjà que nous, en France, ça nous fait chier, on a quasiment que ça au ciné.
Mais honnêtement, depuis plus de 6 mois, le mouvement Occupy, on en parle vachement moins. Il y a un an, tout le monde en parlait, tu pouvais pas écouter les infos une fois sans entendre parler du mouvement Occupy.
Oui, les médias de gauche, hein, parce que les médias de droite, tu regardes des fausses news, tu savais pas que ça existait.
Moi, ça m'aurait fait chier encore une fois de retrouver ça dans les comics, quoi. Tout ce qu'on entend à la télé, ce sera à la télé, mais dans les comics, bof, quoi.
Après, tout dépend comment c'est traité. Mais c'est marrant de voir que ce mouvement a finalement une résonance dans les comics actuellement, un an et demi après le début, mais et à peu près en même temps, quoi. C'est ça que je trouve assez étrange. Parce que ça débarque en mai, ça aussi, comme Green Team et Movement.
Ouais.
assez étonnant. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à Steven Niles avec sa compagnie. Lancer une nouvelle compagnie dans ce marché, je sais pas si c'est forcément viable, mais.
Mm-hmm. J'espère qu'il l'a pas garanti sur ses biens personnels, parce qu'il veut tout perdre. Hein.
Bah, tout perdre, peut-être pas. En même temps, c'est Steven Niles, il a une certaine aura, mais.
Ouais.
On termine les brèves, cette fois-ci, avec la VF, puisque on a le planning urban pour mai 2013. Sam, tu vas nous en parler, parce que
oui.
J'ai pas envie de le faire. Je
oui.
me repose.
Oui, oui, va falloir en faire des emprunts, les gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de grosses choses. Alors, côté DC, côté New 52, on a la suite de Batwoman et de Green Lantern, donc le tome 2 pour les deux séries. Côté réédition, Batman Silence, donc de Jeff Loeb et Jim Lee.
Ouais, tu vas laisser attendre.
La suite de Catwoman par Ed Brubaker. Et ouais. La suite de Superman par Jeff Jones.
Mm-hmm. Dont le premier tome vient de sortir ce mois-ci.
Ouais, voilà, donc ça va.
Ils vont être assez rapides.
Précisons
que la suite contient des inédits, puisque je crois que la saga avec Bizarro n'était jamais traduite, n'avait jamais été traduite par Panini à l'époque.
Oui, on n'a pas perdu grand chose avec, parce que je l'ai lu en VO et ça peut être terrible.
Oui, mais c'est bien de proposer du matériel inédit, je trouve ça.
Ouais.
Voilà, c'est pas que.
Bah, ça
donc, c'est vrai qu'il y a
peu
certains qui ont déjà les trucs Panini qui vont gueuler parce que on se dit ouais, mais je vais pas acheter un bouquin pour 4 épisodes, ça me fait chier, vous pouvez pas les sortir en kiosque à côté. En même temps, on a de l'inédit donc.
Je viens de le dire, ça me fait chier. Voilà. Encore une fois.
Continue Sam avec le Vertigo.
Alors Vertigo, là ça va coûter aussi très cher puisqu'on a la suite de Sandman qui arrive, le tome 2. Donc toujours énorme puisque ça fait 450 pages pour 35€. Donc c'est un bon prix hein, pour la quantité.
Ah, et puis c'est une très belle édition, ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas Sandman ou ça vaut même le coup de se les racheter. Parce que franchement, la colo est tellement belle comparée aux premières éditions qu'on avait chez Delcourt, qui avait été ensuite réimprimée
oui,
chez Panini.
Très bon boulot là-dessus.
Ouais.
La suite de DMZ, donc la réédition est tome 7 et 8 et le nouveau tome 13. Et un semi-retour, on va dire, d'American Vampire, puisqu'on a la American Vampire Legacy tome 2, qui en fait correspond à la deuxième mini-série American Vampire, qui est sur les vassaux de Vénus, vous savez, l'organisation qui chasse les vampires, mais pas la série principale.
Ah ben ça va venir, peut-être qu'ils relancent pour voir,
ouais.
Pour voir comment
alors,
ça marche.
Alors, il y a eu un commentaire de la personne qui commente sur Urban qui disait « Vous n'avez pas encore les sollicitations pour juin et juillet. » Donc.
Et ben voilà.
On va voir.
Produit d'appel pour rappeler que ça va arriver, quoi.
Mm-hmm.
C'est bien. Du côté de l'Indé, maintenant.
Alors là, une grosse sortie, une. Enfin, il y en a deux, mais il y en a une que je suis très surpris et très heureux de voir, c'est John Prophet. Donc, Prophet, qui est une série Image, donc c'est le relaunch d'un titre de Rob Liefeld, qui est une tuerie monumentale. C'est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai jamais lues.
Scénarisée par Graham Brendon.
Ouais, qui est excellente. Donc, allez-y. Et un truc qui a fait beaucoup rire Steve, qui est Adventure Time, tome 1.
Oui, mais que j'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi dans les commentaires, peut-être qu'elle est, je sais pas. Moi, j'ai essayé Adventure Time, je n'ai pas réussi. Je suis resté complètement de glace face à ce truc. Je me demandais ce que je regardais. Je sais pas, j'ai l'impression d'être sous LSD, peut-être. Sans, ou alors j'en avais pris à mon insu. Mais je n'ai pas compris l'attrait. Alors, expliquez-moi. Bon, en tout cas, c'est bien de le proposer. Il y a sûrement des gens que ça intéresse. La preuve, ils le sortiraient pas si ça avait pas été le cas. Moi, je suis quand même assez surpris de voir John Prophet. Il y a de plus en plus d'images chez Urban.
Tant mieux. Et du bon Image, hein. pas du quatrième ordre, du très bon.
Eh ben, Saga, Prophet, quand même, quoi.
C'est vraiment le haut du panier. Côté kiosque, on n'a pas encore le programme, enfin, on a le programme de sortie, mais pas le contenu, et il sera surveillé, puisqu'on sait qu'il y a des modifications de programme, normalement, dans DC Saga, donc, à voir.
Sont annoncés, donc, au mois de mai, les Batman, DC et Green Lantern Saga numéro 13, ainsi que le Before Watchmen numéro 3. Benny, petite pensée sur tout ce programme. Alléchant.
Bah, écoute, moi, je suis content qu'ils poursuivent la parution des histoires de Jeff Jones sur Superman. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait des trucs qu'on n'avait pas eu, donc, tant mieux. Je me demande si un jour on aura les fameuses histoires de Superman qu'on n'a pas eu juste avant le relaunch, parce qu'ils devaient les sortir déjà l'an passé.
Ouais.
Ils avaient même gueulé contre ceux qui gueulaient justement sur Facebook en disant « Ouais, vous allez pas le faire, vous allez pas les sortir. » Ils avaient dit « Si, on va les sortir, limite bande de cons. » Et puis finalement, bah, y a rien. Donc bon. Non, mais sinon, je suis assez content. Ouais, Sandman, que je prendrai avec plaisir. Et puis... Et puis Prophet, tiens, je pourrais l'essayer.
Je te le conseille, parce que c'est vraiment
l'occasion.
Excellent. Par contre, ça demande une relecture, hein, parce que c'est très dense.
Ah, ça c'est moins bon, par contre. Les comics où il faut les lire deux fois, moi déjà j'accroche moins.
Ah non, mais c'est pas qu'il faut pas le dire deux fois parce que c'est mauvais, il faut le dire deux fois parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir.
Faut le dire 8 fois.
Non, non, c'est juste que l'univers qui est dépeint est extrêmement riche, donc.
J'ai pas encore commencé cette série, moi, personnellement.
Bah, tu dois.
Ouais, je sais, tu m'en as beaucoup parlé, mais j'ai pas eu le temps de la commencer.
C'est pas une excuse. Tu commences, c'est point.
Allez, on va passer au gros sujet de la semaine. C'est le noir au cinéma. Puisque les titres qui vont arriver côté comics, SF, tout est sombre, tout est plus noir, tout est plus glauque. La preuve avec Star Trek. Star Trek 2 s'appelle Into Darkness. On a Thor qui s'appelle Thor The Dark World. On a un Superman Man of Steel qui est très proche de ce qu'on a vu dans Dark Knight. On peut pas dire que c'était quand même quelque chose de super lumineux, Dark Knight. Mm-hmm. Tous les grosses sorties ont tendance à devenir de plus en plus noires. Le Wolverine nous est promis comme étant plus noir aussi que le premier. Plus bon, ce serait mieux, mais...
Bon, oui, bah déjà, ça sera un changement. Hein.
Enfin, voilà, c'est quand même une tendance qui a l'air de se généraliser. On veut faire du sombre.
Bah, en même temps, c'est l'époque. Hein. Je suis désolé, mais l'époque est pas super, super joyeuse. Nous répéter, c'est la crise tous les jours, on va tous mourir, c'est la fin du monde, donc...
Oui, bah, justement... Justement, d'habitude, quand on est dans ces courants-là, on a plutôt tendance à faire des trucs joyeux pour que les gens soient au moins contents en lisant des
comics. Non, non,
des
faire du sombre,
et puis s'évader. Non, mais je sais pas, mais justement, moi, j'ai plutôt tendance à croire que pour les divertissements, ils essayent d'aller à contre-courant pour plaire aux lecteurs.
Pas cette fois.
Donc là, je sais pas.
Bon, je crois que c'est parce qu'on en voit le mot surtout.
En même temps, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est pas à chaque fois qu'on a une suite ou une sorte de remake, on va dire, que forcément la suite est toujours plus dark? Je sais pas. Parce que là, bon, Star Trek c'est la suite, Thor c'est la suite, Superman, bon bah c'est plus ou moins un relaunch de la franchise. En général, les suites sont toujours dark, quoi. Regardez les Star Wars, hein, l'Empire contre-attaque, c'était quand même le plus dark de tous.
Mmh. Oui, mais quand tu regardes, par exemple, c'est ce que l'on voit dans Iron Man 3, les trailers qu'on a pu voir actuellement. Le Iron Man mange sévère, sa base est détruite. Enfin, voilà, t'as l'impression que c'est là aussi le Iron Man 3 qui va sortir est encore plus sombre que les deux précédents.
Iron Man mange sévère. Ah, oh putain.
Non, pas
oh,
mange
putain.
Sévère en deux mots. Putain.
Oh. En plus, le pire, c'est que j'avais vraiment compris ça. Je me suis dit, attends, on n'a pas dû voir la même bande-annonce. Comme je regarde pas toutes les bandes-annonces, je me suis dit, putain, j'ai loupé des trucs. Parce que... Non seulement il a des verres. Non seulement il a des verres, Tony Stark, mais il les bouffe. Je me suis dit, oui, il est tombé bien bas, effectivement. C'est vraiment la grosse dépression, là.
Pire que dans World Most Wanted.
Non, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Sérieusement, j'étais en train de me poser des questions sur...
N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, voilà, même cet Iron Man 3 qui ouvre le bal des sorties comics de l'année a l'air...
Il mange son caca.
Bon, après, on a d'autres sorties comme Sin City, mais là, c'est volontairement sombre, c'est normal, c'est l'œuvre de départ qui est comme ça. Et ouais. C'est vrai que c'est quand même une tendance, j'ai l'impression, pour cette année, l'année prochaine, et peut-être même les années suivantes encore.
Mmh. Bah, en même temps, il y a Avengers 2, donc on devrait bien se marrer, normalement. En même temps, c'est du jeu Sweden, donc il est pas interdit qu'ils nous en mettent un en travers de la gueule. Donc,
Alors c'est oui. Étrange, comme en fait le truc c'est que on sent que c'est vraiment dans l'air du temps, étant donné que tous les films sont comme ça. Si ça n'était que un qui avait lancé la mode, mais même pas quoi.
Même... Ouais, mais paradoxalement, dans les pages des comics, bon bah voilà, le Dark Reign c'était il y a quelques années. Maintenant c'est justement un peu plus lumineux, c'est Marvel Now, c'est un peu plus le retour des héros. Quoi.
Chez Marvel peut-être, mais chez DC on est quand même dans une période sombre. Hein. Regarde ce qui se passe dans Batman.
Oui, mais
regarde
Batman,
ce qui se passe dans Superman. Regarde, enfin voilà, c'est quand même du crossover avec des gros changements, les héros en prennent plein la gueule.
Moi j'ai envie de te dire, ça a toujours été comme ça depuis des années chez DC. Je sais pas, la période sombre, oui et non, quoi. C'est surtout sombre parce que le relaunch est pas très bon, quoi, j'ai envie de dire, surtout. par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, il y a quand même beaucoup plus de déception que de réussite, hein. Bon, il y a juste une personne dans l'équipe qui sera pas forcément d'accord, mais Moi, je maintiens, et de plus en plus. Hein.
Regardons aussi ce X-Men 2, enfin ce X-Men First Class 2, Days of the Future Past.
Bah, déjà, ça devrait annuler X-Men 3 et X-Men Wolverine Origins. Donc déjà,
oui,
ça sera très bon, ça.
L'histoire n'est pas la plus lumineuse et la plus gentille, la plus guillette
ouais.
qui soit. Hein,
En même temps, c'est normal, puisque je te parlais donc de Star Wars, puisque à la fin, un petit peu, on a la naissance du Dark Vador des X-Men, donc Magneto. Il est évident que là, le deuxième sera forcément plus sombre que le premier, et moins rempli d'espoir, quoi, puisque le premier c'était quand même l'espérance, la formation du groupe. Enfin, ça partait sur de bonnes bases, quoi, le premier. Jusqu'à cette fin où vraiment, voilà, tout part en sucette, et puis, bah, on a la formation des équipes qu'on connaît. Donc bon, je sais pas, mais j'ai l'impression que globalement, souvent au cinéma, les numéros 2 sont souvent plus sombres que les premiers.
Ben parce qu'on met, je pense qu'on met vraiment les héros en danger dans le lot, c'est pour ça.
Bah, de toute façon, ouais. Même quand on regarde Captain America 2, qui sera l'histoire donc apparemment du Winter Soldier, mm-hmm. c'est pareil, ben oui. C'est pas l'histoire la plus gentillette et la plus guillette qui soit, quoi.
Mm-hmm. Bon, souvenez-vous par exemple de Superman 2, Superman perd ses pouvoirs, Spider-Man 2 par Sam Raimi, Spider-Man perd ses pouvoirs. Oh, bah dis donc, c'était
quoi. Non, ce serait pas Captain forcément Marvel. Le cas dans le Amazing Spider-Man 2, mais
Oui, sinon je changerai un peu.
Ben, on verra. En même temps, le premier était déjà relativement sombre par rapport à l'ancienne mm-hmm. trilogie, j'ai trouvé.
Ouais, ben moi je sais pas, je l'ai toujours pas vu, donc
moi, tu rates pas grand-chose. Bah disons que si t'as vu Spider-Man 1 de Sam Raimi.
Bien sûr.
Donc tu peux sauter la première heure, c'est bon.
Cool. Un film qui sera court à voir.
Non, mais faut quand même tout mater. Et puis honnêtement, tout n'est pas acheté dans ce film.
Ah non, mais j'ai pas dit que tout était acheté, mais voilà, moi quand je l'ai rematé, franchement, quand j'ai acheté le DVD, j'ai passé les trois premiers quarts d'heure là en accéléré, parce que ça me faisait chier.
Je suis déçu, Sam. Tu ne l'as acheté qu'en DVD, tu ne l'as pas pris en Blu-ray.
Si, je l'ai pris en Blu-ray.
Quand même. Enfin voilà, c'était un petit peu l'avis sur les prochaines sorties à venir. C'est vrai que on va manger du sombre et du noir. C'est pas en allant au cinéma et en regardant des grosses super productions qu'on ressortira, je pense, super guilleré avec la joie de vivre.
Ah si, avec Pacific Rim, si, je pense que oui.
Excuse-moi, c'est la guerre. Hein. Bah c'est oui, la guerre entre des monstres et robots. Certes, bah ça peut peut-être être fun, mais franchement, on va pas dire que c'est pareil, super joyeux, quoi.
Bah non, moi je dis des robots qui bastonnent des monstres, moi je vais sortir avec le sourire.
Il va encore y avoir des millions de morts, la Terre sera détruite.
Ouais,
non,
c'est génial.
Pas... Tu sors pas de ça avec un méga sourire. Remarque, à moins que tu sois peut-être psychopathe. D'ailleurs, on va peut-être se poser des questions sur toi, Sam. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu l'avis qu'on avait concernant les prochaines productions. N'hésitez pas à nous faire part aussi de votre sentiment dans les commentaires. Alors que j'ai le chien derrière moi qui me lance sa balle puisqu'il a envie de jouer. C'est vachement pratique de se concentrer pour l'émission. On va passer à la partie Screen News et on commence avec une annonce. Jason Momoa serait peut-être Drax dans Guardians of the Galaxy.
Alors, rappelons qui est ce monsieur.
Jason Momoa, c'est Conan, plus récemment au cinéma, mais c'était surtout le Ronan de Stargate Atlantis.
Ou récemment dans Games of Thrones.
Oh oui, c'est vrai, il était là, il était tellement absent, lui, que je l'avais oublié déjà.
Le mec qui crève et qui... à la fin, là.
C'était un peu spoil, ça.
Non, il crève pas à la fin, je crois qu'il crève en cours. C'est dans le livre qui est sorti il y a 10 ans, pas chier. Puis la saison 1 est sortie il y a un moment, c'est sorti il y a 2 ans. Alors, c'est pas chier avec ces spoils.
Ouais, bon, il y en a qui se sont pas mis encore.
Oui, puis c'est surtout qu'il... Bah voilà, il dit tellement rien à l'écran que moi je l'avais déjà oublié.
C'est un personnage vraiment secondaire. Hein.
Bon, il s'est juste montré son torse et montré à quel point il n'a pas de poils.
Voilà. Oui. Voilà, c'est Jean Lambert, faut pas leur faire confiance.
De toute façon, c'est bien ce qu'on disait la semaine dernière quand on annonçait celui qui avait joué, qui allait jouer justement Star-Lord. Petit trou de mémoire. Bruno disait, bah ça y est, on a tout le casting. Moi, j'étais pas persuadé. Je me doutais bien qu'il y aurait des gens qui joueraient Drax et Gamora, même s'ils ont l'air totalement verts, etc. Ils seront pas complètement en CGI. Il y aura forcément un acteur en dessous. Donc, ce serait possible que ce soit lui. Espérons que son jeu d'acteur immense ne transparaîtra pas trop.
Sachant qu'il doit avoir trois expressions faciales en tout.
Pour ma part, c'est vraiment pas un bon acteur, quoi. Benny.
Non, mais ouais, non, mais pour jouer Drax, par contre, je sais pas. Ouais. Peut-être que ça pourrait être drôle.
Bah, ça, c'est suffisant.
Drax, ouais, vouloir cuire Thanos, Conan le Barbare, je pense qu'on est un petit peu dans le même registre, donc, faut voir.
On passe d'une montagne de muscles à une autre, puisqu'on va parler de Dwayne Johnson, The Rock.
Ouais, qui a conservé son titre hier soir. Oh, gros spoiler!
Eh bien, il devait jouer Lobo, s'était proposé pour le rôle, on en parlait depuis très longtemps. Finalement, il n'est plus attaché au projet.
Oui, parce que monsieur a perdu l'intérêt pour le truc au bout de 5 minutes.
Ouais, je sais pas, écoute... Est-ce qu'il a vraiment perdu l'intérêt pour le cinéma? Parce que bon,
bah, le cinéma a perdu l'intérêt pour lui, c'est clair.
Ah, bah faut voir. On va voir déjà sa performance dans G.I. Joe là prochainement, très vite.
Oui, et puis il faut regarder son excellent film Tooth Fairy, où on voit justement le Rock devenir une espèce de petite fée des dents, ce qu'on appelle la petite souris en France. Voir le Rock en tutu et en ballerine, c'était à mourir de rire.
Non, mais je pense pas. Je pense que le mec a encore un petit avenir au cinéma, mais
surtout qu'il est pas si mauvais que ça comme acteur. On a vu bien, bien pire.
Ouais.
Quand tu regardes un mec comme Steve Austin qui vient aussi du catch, qui lui ne sait pas forcément bien jouer.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Enfin, globalement, de toute façon, c'est des gens qui chaque semaine doivent s'entraîner à jouer justement la comédie un peu en live, donc c'est pas forcément les plus mauvais acteurs justement.
On a eu Hulk Hogan aussi dans les désastres.
Oh, c'est vrai. C'est vrai. Non, alors lui, par contre. Que ce soit sur le ring ou derrière une caméra, enfin voilà, il est toujours mauvais.
Moi, je me rappelle toujours de sa série Thunder in Paradise. En français, c'était Caraïbes Offshore.
Ouais, Caraïbes Offshore. Mais n'empêche, sur la 6, putain, je regardais ça. Hein,
ah, mais moi aussi, mais j'étais plus jeune. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui.
Et j'en garde pas forcément un mauvais souvenir, enfin.
Oui, parce que c'est nos yeux d'enfant. Enfin, en tout cas, d'ado. Parce que un bateau qui va super vite, un bateau 4000, c'était cool. Maintenant,
non, moi, c'était
les filles
que je regardais.
La trentaine passée, je suis pas sûr qu'on trouverait ça aussi bien, quoi.
Ah, Caraïbes Offshore. Ouais. Avec beaucoup de guests, d'ailleurs, tous ses potes, au fait, qui passaient dans le show, je me rappelle.
Allez, on continue avec Amazing Spider-Man 2. Un nouveau costume serait développé pour le film. On voit notamment, pour le moment, on n'a pas beaucoup de photos. On a juste la photo de ce qui lui couvre les yeux. Il serait plus large avec un grillage en argent. Ouais.
Ouais.
C'est bon. Franchement, donner de la news pour les films, c'est vraiment pour essayer de faire parler du film, essayer de susciter l'intérêt quand on n'a pas
de news. Aller regarder d'autres films.
Non, mais c'est vraiment pour essayer de remonter un petit peu l'intérêt vers le projet, puisque actuellement, les yeux sont plus tournés vers d'autres projets du type, justement, Days of the Future Past ou encore le Iron Man 3. Je sais pas si c'est une bonne idée de Sony de communiquer là-dessus. Mais...
Mmh. Bah, espérons qu'ils oublient pas le scénario cette fois.
Alors, on rappelle, hein, dans ce numéro 2, il devrait se battre contre un nouveau vilain, Electro, incarné par Jamie Foxx. Donc, on a un Electro Black. Et son ami Harry Osborn devrait être présent aussi.
Oui, il y a des rumeurs aussi sur Rhino.
Oh putain.
Oui. Bah, mettez-en trop, comme ça va pourrir le film. C'est voilà.
Et il y a aussi des rumeurs concernant Black Cat.
Ouais. tu me sens motivé là.
Ouais.
On termine la partie cinéma avec un nouveau membre de casting justement pour Days of the Future Past, le X-Men First Class numéro 2. Et ce serait Peter Dinklage qui pourrait arriver au casting. Peter
Putain
Dinklage,
de bon acteur.
Rappelons, voilà, qui joue, comment s'appelle-t-il dans Game Tyrion. Of Thrones Tyrion, voilà. Bon, bah,
Tyrion Lannister.
Pour les gens qui ne voient pas, c'est le nain.
Mm-hmm. Qui est excellent.
Magnifique acteur,
bien sûr, ouais.
Magnifique.
Qui était aussi dans Nip/Tuck, hein.
Alors, on le présentait peut-être quand ça a été annoncé pour le rôle de Puck, peut-être, puisque un personnage nain, c'est vrai que...
C'est vrai que, ah bah oui, putain, il se rase la tête, c'est bon, hein.
Et finalement, on a appris qu'il aurait le rôle du vilain principal.
Mm-hmm. Donc comme il y a les sentinelles, tout de suite les fans ont réagi en disant que ce serait peut-être Bolivar Trask.
Possible, c'est possible.
À voir.
C'est vrai que là, sorti des comics, un ennemi nain...
Et non, en fait, ce sera Mojo. Le truc n'a rien à voir.
Enfin, voilà, le retrouver au casting de X-Men, c'est plutôt pas mal, quoi. Mm. Ça donne un petit peu plus envie de voir le film. S'il a une aussi bonne prestation que dans Game of Thrones, on va être servi, je pense.
Mm. En tout cas, ce Days of Future Past s'annonce de plus en plus énorme.
Oui, bah oui, c'est clair. Là, ils mettent vraiment le paquet. Hein.
Ouais. S'ils peuvent faire mieux que le premier, ça serait bien.
Ont-ils peur des mauvais résultats de Wolverine? Ils essayent de compenser, je ne sais pas.
Ouais. À voir.
On fait un petit tour du côté des jeux vidéo maintenant pour terminer l'émission avec Telltale, ceux qui avaient produit le premier jeu Walking Dead, le jeu en épisode, vous savez, cette espèce de point and click nouvelle génération prévue pour console. eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une saison 2 suite au gros succès de la première saison. Une deuxième saison de Walking Dead va voir le jour. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le jeu fait partie des records de vente de cette année.
Bah, écoute, je parlais à un pote de Game One, justement, jeu vidéo. Et du coup, je lui demandais un petit peu les jeux qui l'avaient marqué cette année. Il me dit, écoute, pas grand-chose, à part justement la série de jeux Walking Dead. Pour lui, c'est une révélation. Alors que à la base, quand on lui en avait parlé, effectivement, quand tu dis point and click et tout, tu te dis, bon, c'est juste du gadget, quoi. C'est des vieux jeux datés. Ça n'a plus grande valeur maintenant. Et pour lui, ça lui a mis une grosse claque, quoi. C'est vraiment la révélation pour lui. Il m'a dit, vas-y, fais-les tous, enchaîne-les. Mets-y-toi dès ce soir, il faut absolument que tu les fasses, c'est génial.
Moi, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. À la fin de l'année dernière, pendant la période de Noël, il y avait eu des promotions sur le Xbox Live. J'avais pris les deux premiers épisodes parce qu'ils étaient à moitié prix. Donc, ils étaient qu'à seulement 200 points au lieu de 400, ce qui représente à peu près 3€ au lieu de 6. Et j'avais pris les deux premiers, mais j'ai toujours pas eu le temps de commencer. Honnêtement, ça fait un mois que j'ai pas allumé la Xbox. J'ai pas eu absolument le temps du tout de jouer. Donc, ils sont là, sur le disque dur au chaud, ils attendent que je veuille bien commencer. Mais voilà. J'ai hâte de m'y mettre quand même parce que c'est vrai que...
Bah oui, tu ne donnes pas encore assez d'argent à Robert Kirkman.
Bruno nous avait dit vraiment que les jeux étaient excellents mais c'est aussi pour ça que je m'y suis pas mis tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps de me plonger à fond dans un jeu et c'est pour ça que je repousse un petit peu le moment où je vais commencer parce que j'ai peur de pas pouvoir m'arrêter tout de suite. Justement, Telltale, parlons-en aussi puisque il y a 2 ans ils avaient annoncé un projet concernant le jeu, enfin l'univers de Fable de Bill Willingham. Ils ont annoncé aussi que ce projet était toujours en développement, ils travaillent dessus. Par contre, le jeu ne s'appellera pas Fable. Il sera toujours basé sur la licence de Bill Willingham, toujours avec les mêmes personnages, le même univers, mais ne portera pas le nom de Fable. Et ils sont pas encore prêts à communiquer dessus, mais ils bossent dessus, donc le jeu devrait voir le jour bientôt. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ça fera peut-être un peu plus connaître l'univers de Fable aux yeux du grand public.
Oui. Moi, ça m'a fait marrer ton lapsus. Je me dis, tiens, un jour, si Kirkman en avait marre de faire Walking Dead et que Willingham en avait marre de faire du Fable, ce serait intéressant de les voir inverser, ouais, échanger.
Ça pourrait être marrant, un petit mois crossover comme ça.
Oh, putain, enfin,
il faudrait pas un mois, il faudrait un arc complet pour que ce soit plus intéressant, parce qu'un mois, c'est un peu trop court. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, de bonnes nouvelles pour Telltale qui font vraiment des vrais bons jeux d'habitude, donc pas de doute que les prochains le seront aussi. Et puis c'est surtout, moi j'ai hâte de voir ce que pourrait donner Fable, puisqu'ils devraient bosser dessus. Enfin, le jeu qu'ils nous annoncent devrait être quelque chose dans le même esprit que ce qu'on a vu sur Walking Dead, un espèce de point and click, nouvelle génération comme ça, avec tout cet univers-là, des myriades de possibilités. Il y a de quoi faire de très très bonnes séries. Non, pas quelque chose qui t'intéresserait pas trop, Benny?
Ah si, non mais carrément.
Je te pose pas la question, Sam, toi tu joues pas, donc...
Non.
si, carrément. Non mais comme toi, par contre, je m'y suis toujours pas mis, malheureusement, honte à moi. J'ai simplement branché la Xbox aujourd'hui, tiens, il y a de l'effort.
Waouh. T'as vérifié s'il y avait une mise à jour?
Non, même pas, je l'ai pas allumé, je l'ai branché, attention, hein, faut pas déconner. Ça faisait un mois au moins qu'elle était dans un sac, que je l'avais pas sorti, Là, j'ai fait l'effort, tu vois, de la brancher. Et puis, finalement, au moment où je me suis dit, est-ce que je l'allume? Je fais, non, j'ai passé l'aspirateur.
Putain, et trop d'hardcore gamer, les mecs. Trop d'hardcore gamer.
Passionnant.
Ah, t'es un rebelle, hein, Bonnie.
Plein
t'es un rebelle.
De rebondissements. Ouais, je suis un gros rebelle, moi. Je suis comme ça.
T'es,
je sors l'aspirateur.
T'es pas un vrai geek, parce que toi, tu passes l'aspirateur. Quand t'es un vrai geek que tu passes l'aspirateur, tu prends Léa passion aspirateur, tu vois.
Non, mais il y a des moments où c'est plus possible.
Il y a des moments quand tu marches et à 10 cm.
Il y a des moments
sol,
quand tu vois
des
voilà, quand t'as des espèces de microsystèmes de dimensions comme la zone négative qui se forme sur ta moquette, tu te dis bon, il faut agir.
Quand il y a les verres de Tony Stark sur ta moquette, justement, c'est là.
Moi, je fais mon Franklin Richard, je crée des micro-univers chez moi.
Qui bouge, qui commence à te parler aussi.
Exactement.
Et toi qui joues pas à Sam, un petit jeu sur Fable, ça t'intéresserait pas quand même?
Ouais. Bah si on retrouvait Bigby Wolf comme ça, qui bute tout le monde, ouais, ça pourrait être sympa.
Ah attention, hein, ce sont des jeux d'aventure, hein, des jeux à l'ancienne. Enfin ouais, l'ancienne. Même si c'est nouvelle génération, mais ça reste des jeux à l'ancienne, des jeux vraiment d'aventure, de recherche, où tu vas chercher un objet, etc.
Bah écoute, tu doubles mon salaire et d'accord.
Pourquoi?
Pour que je puisse me payer le truc.
Bah non, mais d'ailleurs, comme on lui paye rien, tu peux. Non, mais comme on lui paye rien sur Comic City, double lui son salaire. 0 plus 0, ça fera toujours 0, hein, et puis il se mettra.
Non, mais tu sais, enfin, ils sont, y a pas besoin d'une console, hein, ils sont aussi disponibles sur PC, ces jeux-là. Hein,
ouais, mais comme j'ai comme portable.
Bah, et alors? C'est des petits jeux, il faut des petits jeux, il n'y a pas besoin d'une bête de course pour les faire tourner, hein, loin de là. Enfin bon, renseigne-toi, je pense que ça vaut le coup, et on aura plus Sam pour les podcasts des prochains mois, si ce sera trop
plus d'articles, plus rien.
Le mec, il sera retombé dans les jeux vidéo, et voilà, ça y est, il disparaîtra. Voilà, bon, c'est tout pour cette semaine, on a fait vachement long alors qu'on avait un programme super court, je sais pas comment c'est démerdé, comme d'hab. On se retrouve donc, ah j'oubliais peut-être, avez-vous un bash?
Non, ça va. Hein.
Non, je pense pas. Là, comme ça, j'y réfléchissais tout à l'heure et non.
Comme ça, on raccourcit l'émission, ça tombe bien. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, vous nous suivez bien sûr sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, ou encore vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Vous retrouvez les anciens épisodes sur iTunes ou sur le site. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour réagir à toutes ces infos et puis nous donner les petites réponses aux questions qu'on vous a posées qui nous turlupinent comment dézinguer la Batmobile.
Ouais. Et non, ouais, non, mais le seul bash, c'était justement marre des émissions trop longues, mais de toute façon, voilà, je pense que ça sert plus à rien de le faire maintenant.
Ou l'autre question, comment appréhender Adventure Time pour les gens qui ne comprennent rien?
Ouais.
Ou expliquez-moi Promethea 12, parce que j'ai toujours pas compris. Ça fait 12, voilà. Ça fait plus de 10 ans.
Voilà. Chacun sa question.
Voilà. On fera les comptes la semaine prochaine.
Et si possible, chacun sa réponse, puisque si vous expliquez à Sam comment se servir de la Batmobile, à mon avis, il s'en fout, quoi.
Ah, ça pourrait être marrant qu'un mec super calé nous cale les trois. Balèze. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
À bientôt.
Allez, ciao, bande de 1, voilà.